Dorian Malovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous avez recueilli le témoignage de Mi-jin, une Nord-Coréenne qui a fui son pays et qui vit depuis 2010 à Séoul, en Corée du Sud. À travers son témoignage, on approche la vie au quotidien en Corée du Nord. Mais avant d'évoquer cela, je voudrais que vous nous parliez de cette rencontre. Vous écrivez que ce livre n'aurait pas pu voir le jour sans une alchimie collective.
Exactement. C'est-à-dire que dans notre métier, on rencontre des centaines de personnes absolument exaltantes, absolument fascinantes. Et là, en l'occurrence, elle a senti que, d'abord, je ne cherchais pas l'extraordinaire, le scandale, les histoires dramatiques que nous avons déjà eues dans le passé, au moment de la famine dans les années 90, où les défecteurs nord-coréens racontaient des histoires absolument affreuses et souvent un peu exagérées parce qu'ils étaient payés pour ces témoignages-là. Moi, je lui ai dit d'emblée que j'avais déjà rencontré des dizaines de nord-coréens avec Juliette Morio, notamment la co-auteure du livre, depuis la famine des années 90 et que je cherchais plutôt une plongée dans l'intimité de la vie de quelqu'un et d'une famille qui vient d'une province du nord du pays. Et je pense que c'est ça qui l'a séduit. C'est-à-dire, elle sentait que je n'étais pas là pour lui faire me raconter des histoires absolument horribles, mais que je voulais qu'elle me parle d'elle. Et elle me l'a dit maintes fois pendant les heures d'entretien que nous avons eues. Elle ne l'avait jamais raconté. On ne lui a jamais demandé sa vie de famille, son enfance, ses relations avec ses parents, son mariage, son mari, son divorce, ses scandales, ses drames, mais intimes.
On suit la vie de cette famille à travers ses yeux d'enfant, d'adolescente, de femme adulte. On va parler un petit peu effectivement de la société nord-coréenne qu'elle décrit. Mais vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris?
Je crois que à chaque rencontre, j'étais éberlué par des révélations, parce que on sait que le système est autoritaire, on sait que le système est réprimant, que le régime contrôle tout. Et ce qui me fascinait, c'était d'entendre en vivant quelque chose qu'on connaît, mais qu'on entend rarement. Et ce qui m'a frappé, c'est que par exemple, dès l'âge de 12-14 ans, elle assiste à des exécutions publiques, et elle vous le raconte comme une normalité. C'est-à-dire que nous, les enfants, à l'âge de 12 ans, ils font des sorties scolaires. Là-bas, de temps en temps, il y a des exécutions publiques. Donc ça, c'est quelque chose qui vous font tomber parce que vous vous dites, c'est la normalité d'une vie qui est vraiment, vraiment très difficile.
Et dans la normalité de cette vie au quotidien en Corée du Nord, il y a aussi la corruption, les passe-droits. Elle en parle beaucoup aussi. À chaque moment de sa vie, finalement, il y a eu un acte de corruption, son entrée à l'université.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière le rideau de fumée qui se dresse devant la Corée du Nord, on s'imagine que tout est monolithique, que tout est cadré, qu'il n'y a pas moyen d'échapper à la règle, à la loi. Et en fait, vous réalisez, même dans le système nord-coréen, eh bien, vous avez des enveloppes, de l'argent, des passe-droits. Si vous avez du pouvoir, eh bien vous le négociez comme son père l'a fait pour le faire entrer dans une école meilleure que les autres. Et puis après, pour avoir un bon travail, ça vous permet d'avoir des primes, un peu plus à manger, des avantages qui sont non négligeables dans la société nord-coréenne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est son patron qui veut la marier avec son fils, par exemple. Et on voit bien que c'est un mariage arrangé d'intérêt parce qu'elle est travailleuse, elle est sérieuse. En fait, c'est une enfant modèle, c'est une adulte modèle, mais qui va s'adapter et qui va faire ce qu'il faut faire pour se débrouiller.
Donc, beaucoup de corruption dans la société nord-coréenne. Et d'ailleurs, les Nord-Coréens ont un proverbe très imagé.
Ah oui.
En Corée, tout s'achète. Avec de l'argent, on peut acheter les testicules d'une vierge. Ça montre bien l'ampleur, effectivement, de cette corruption dans la société.
Oui, tout est dit. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'elle n'a pas cherché à me donner une image parfaite d'elle-même. Loin de là, c'est quelqu'un qui est très dur, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui n'hésite pas non plus à marcher sur les pieds des autres. Des exemples pendant la famine, on voit bien que sa famille a réussi à faire de l'argent sur le drame des autres, par exemple. Mais c'était une réalité que beaucoup le faisaient. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un témoignage à nu. C'est vraiment brut et ça reflète bien ce que peuvent vivre les Nord-Coréens. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment de la jeune sœur du leader Kim Jong-un, hein, qui prend les affaires en main aujourd'hui. Et on peut se dire qu'elle, Mi-jin, est à l'image de ces femmes nord-coréennes qui ont fait marcher l'économie nord-coréenne pendant la famine. 80% des défecteurs nord-coréens en Corée du Sud, ce sont des femmes. Donc elles ont sur leurs épaules une partie de la réussite de l'évolution de leur pays.
Et ce qu'on voit d'ailleurs chez elles aussi, alors effectivement ces femmes d'affaires, ces commerçantes qui font finalement vivre la famille, tout ça déstructure les couples et c'est le cas chez elles, mais elles citent aussi d'autres exemples.
Oui, alors il y a deux éléments vraiment qui brisent les familles. C'est d'une part le nombre incalculable d'accidents au sein de l'armée ou au sein des mineurs, par exemple. Et vous avez une quantité innombrable de veuves en Corée du Nord. Et deuxièmement, ils sont amenés à voyager en permanence dans le pays, ils ne sont pas toujours à la maison. Et il se trouve qu'elle a eu un mari qui était un incapable fini et qui ne faisait que boire, si vous voulez, l'argent du ménage. Et elle le retrouve un soir en rentrant d'une mission de façon impromptue. C'est la caricature, c'est la comédie classique, mais elle rentre chez elle et elle voit son mari au lit avec sa secrétaire. Et là, quand elle vous raconte ça, vous vous dites... Ah ben oui, ben en Corée du Nord aussi, ça existe, c'est possible.
Et il y a ce phénomène alors de mari oisif, parce qu'effectivement les femmes ayant pris, on va dire, le pouvoir économique, les hommes qui sont, vous le dites, hein, ou c'est elle qui le dit, les hommes étant plus contrôlés, eh bien elles prennent le pouvoir.
C'est-à-dire que c'est un peu le cas en Asie. Hein. On imagine toujours en Asie que les femmes sont soumises, mais en fait elles ont un pouvoir énorme dans le foyer. C'est elles qui gèrent l'argent et quand il y a eu la famine, les hommes devaient aller pointer à l'usine. Donc les femmes, elles, se sont mises à vendre sur les petits marchés tout ce qu'elles pouvaient vendre. Mijin a eu l'audace de faire des petits pains, et puis après, elle a fait des petits pains améliorés, puis on lui a piqué sa recette, et puis elle s'est mise dans le textile qui venait de Chine, dans les mines, et elle a fait un trafic d'or aussi. Et ça, ça a été un peu sa perte, puisqu'elle a provoqué des jalousies dans son entourage, et elle a failli payer de camps d'internement, et c'est là où elle a fui.
Et alors, vous parliez tout à l'heure de son caractère. Effectivement, on ne peut pas parler de ce livre sans parler de son caractère, on va dire, bien trempé. Oui. Mais c'est son caractère qui va déclencher, ce qui va la pousser à fuir son pays.
Écoutez, quand elle me raconte pourquoi elle est partie, hein, elle ne vous raconte pas une histoire abracadabrantesque. Non, elle se sentait intouchable. Elle pensait que elle, Mijin, avec son passé, ses parents,
privilégiée.
Voilà, l'étiquette absolument parfaite de citoyen modèle, personne, quoi qu'elle fasse, ne pouvait l'atteindre. Et il y a eu un petit policier qui a voulu faire du zèle, qui subitement l'a menacé en le faisant signer un papier qui était en fait son arrêt d'arrestation, si vous voulez. Et quand on lui dit ça, elle tombe de haut, elle se dit... Elle n'a jamais pensé que ça pouvait lui arriver. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la dimension spirituelle en Corée du Nord, qu'on imagine toujours comme un pays athée, ce qui est le cas dans la réalité, mais elle va voir une chamane.
Et là, d'ailleurs, vous montrez l'importance de la place du chamanisme quand même dans la société nord-coréenne.
Ouais. Absolument. C'est le chamanisme qui vient de Sibérie depuis des temps immémoriaux, mais qui en Corée est une réalité. En Corée du Nord, c'est une réalité. Elle disait que sa mère et sa grand-mère allait voir des chamans, c'est-à-dire que ça fait partie de ces activités souterraines spirituelles qui étaient tolérées, et même la famille Kim ne se privait pas forcément d'aller voir des chamans, des cartomanciens, pour prédire l'avenir. Et elle va la voir, et là, elle a une révélation, elle lui dit... Mais tu imagines que c'est toi qui vas mener ton destin? Non, ton destin est, je dirais, orienté par des forces supérieures, forces des esprits. Et on voit que une spiritualité très forte caractérise les Coréens, au sud comme au nord. Et finalement, elle va s'ouvrir à une spiritualité qui va l'amener progressivement, en arrivant au sud, à aller vers le catholicisme.
Alors justement, donc elle quitte son pays en 2009, passe par la Chine, par la Thaïlande et arrive en janvier 2010 à Séoul. Et donc vous parliez de spiritualité, de catholicisme. Alors on savait qu'il était compliqué pour les Nord-Coréens de s'adapter à la société hyper compétitive sud-coréenne. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que lors de leur arrivée, c'est toute la pression de ces églises évangéliques, catholiques, pour qu'effectivement, ils choisissent une religion.
Exactement, c'est-à-dire ça, on voit que c'est le reflet également de la société sud-coréenne. Il y a le bouddhisme, il y a le christianisme protestant et il y a le catholicisme. Et quand elle est dans le centre d'intégration d'Anawon, où tous les réfugiés nord-coréens passent au moins 2 ou 3 mois, eh bien, il y a des représentants de toutes ces religions où ils vont devoir aller et choisir. Et elle va d'abord chez les protestants et elle se rend compte que tout ça n'est pas très net chez les protestants parce qu'ils lui promettent monde et merveilles, des fourmis micro-ondes. Oui, c'est ça. Et elle se dit, avec son expérience nord-coréenne, c'est ça qui est intéressant. Elle dit, oh là, des gens qui me promettent tout cet argent, tout ce bonheur, ça n'est pas possible, j'y crois pas. Parce que pour elle, en Corée du Nord, on vous donne rien. Soit vous l'obtenez en échange de services ou de paiements, mais là, elle s'est sentie un peu piégée. Et sa fille, en revanche, était allée chez les religieuses catholiques et elle demande à sa fille, mais bon, qu'est-ce que tu fais avec les religieuses, quoi? Ils te donnent de l'argent, etc. Et elle lui dit, mais absolument pas, nous on discute, on chante, on rigole, enfin, il n'y a rien de matériel. Vous savez, il n'y a que 300 catholiques nord-coréens sur plus de 30 000 nord-coréens en Corée du Sud. Donc c'est une minorité de minorités et c'est quand même plus compliqué d'intégrer la religion catholique parce qu'il faut faire du catéchisme, faut être baptisé. Chez les protestants, on vous baptise, on vous demande si vous êtes d'accord et vous êtes baptisé à la seconde. Mais la progression au niveau des catholiques est plus compliquée.
Et ce qu'il faut signaler pour terminer, c'est que Mijin a fui son pays, la Corée du Nord, mais elle y reste très attachée. Elle est devenue journaliste et elle consacre des émissions hebdomadaires.
Exactement, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup eu de témoignages de défecteurs nord-coréens qui ont été récupérés au Sud politiquement pour qu'ils deviennent des porte-voix de l'anti-nord-coréen, c'est-à-dire de l'anti-communisme, et ils sont utilisés pour ça chez les protestants. Et Mijin, elle dit non, moi. Je viens de ce pays, j'ai été trahi, mais ceci dit, nous ne faisons partie que d'un seul pays, le Sud comme le Nord. Et elle n'est ni une anti-nord-coréenne, ni une pro-sud-coréenne. C'est-à-dire que la démocratie, c'est certes beaucoup plus agréable, mais vous avez aussi des inégalités frappantes au Sud. Vous avez une difficulté de vivre où il y a beaucoup moins de solidarité que dans le Nord. Et en fait, elle explique à la télévision, dans ses émissions et à la radio, la réalité de la société nord-coréenne, et elle veut contribuer à être un pont, en quelque sorte, entre les cultures du Sud et du Nord, afin qu'on se comprenne et on apprenne les uns des autres un petit peu plus, sans caricature.
Et elle voudrait ouvrir un restaurant de nord-coréen à Séoul, voilà, pour faire découvrir la gastronomie nord-coréenne, justement, à Séoul. Voilà. Merci Dorian Malovitch.
Merci beaucoup à vous.